Que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas. Dentro de todas las casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé. Rachemos as barreiras. En pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa. Oprimidas as mulleres, queremonos rebelar. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé.
Féministe sur Radio Galère. Alors, bonjour à toutes mes auditrices, auditeurs. Donc j'espère que je ne suis pas trop essoufflée parce que je suis arrivée juste à temps, donc en direct au studio de Radio Galère. Et du coup, je précise que toutes ces émissions ensuite deviennent des podcasts qui sont réécoutables sur le site de Radio Galère. Et je suis aussi très contente de cette nouveauté, c'est que je suis en train de télécharger aussi tous ces podcasts sur toutes les plateformes à podcasts. Donc du coup, ils seront plus visible, et si vous aimez cette émission, vous pourrez la faire connaître, m'aider à la faire connaître et du coup faire avancer la cause des femmes. Voilà, donc je vais commencer par quelques actualités en fait qui à chaque fois me débordent en fait. Dans cette émission, en fait, j'essaye toujours d'aborder des thématiques de fond aussi, des analyses féministes, des textes de fond, mais souvent j'ai pas le temps parce que j'arrive jamais à traiter tout ce que je veux parce que je suis aussi débordée par les actualités. C'est pas facile à suivre par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, donc je vais commencer par vous parler d'un livre, Héroïne de la rue, de Marguerite Stern, que je n'ai pas lu, je l'avoue, mais qu'une amie à moi, Anna Minsky, a lu. Et du coup, je vais vous lire ce qu'elle en dit. Voilà, donc elle dit « Je suis en train de lire la très belle livre de Marguerite Stern, écrite dans la langage féminine universelle, inventée par Tiphaine D. Je conseille fortement cette livre à toutes les femmes, les filles et aussi les hommes. Marguerite a créé les collages contre les féminicides. Son œuvre est invisibilisée parce qu'elle est féministe radicale. Merci de la soutenir. » Effectivement, donc je la soutiens tout à fait puisque je suis aussi féministe radicale, universaliste, laïque, abolitionniste de la porno-prostitution. Alors, le monde ne changera pas tant que les hommes domineront et abuseront les femmes, les utilisant et les jetant, bien plus brutalement que des objets de consommation. La domination masculine tue plus que le Covid-19. Alors ça, c'est une citation de Marguerite Stern. « Rares sont les moments où je ne me sens pas comme une proie en situation de survie dans la jungle du patriarcat. Parce que je suis une femme et de surcroît une femme qui a fait le choix de la révolte. On me l'a faite payer cher. En vrai, je supporte mal de vivre dans un état de révolte permanente. Le combat féministe me fatigue. Mais si je veux pouvoir un jour marcher dans la rue en paix, je n'ai pas d'autre choix que de m'y accrocher comme une moule à son rocher. Je suis toujours étonnée lorsque les militants d'extrême droite pointent du doigt les immigrés ou leurs descendants en les accusant d'être la source de toutes les violences commises contre les femmes. Elle est évidente que le point commun des agresseurs n'est pas leur couleur de peau, mais bien leur sexe. On parle souvent de la solidarité féminine pour la décrier. Pourtant, la solidarité masculine est largement plus répandue et elle fait des ravages. Que les victimes d'un système s'unissent pour résister ensemble, c'est normal. Mais que les oppresseurs de ce même système s'allient pour garantir la pérennité de notre statut de proie, c'est dégueulasse. » Donc, Marguerite Stern, citation de son livre « Héroïne de la rue ». Je vous encourage donc à le lire. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire à propos de ça, ça m'est échappé. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc maintenant, je vais poursuivre avec... Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé, excusez-moi, que Marguerite Stern crée aussi des podcasts, hein, voilà, qui sont connus, très connus, où elle interview notamment des survivantes de la porno-prostitution. Donc je vous encourage aussi à écouter ces podcasts. Voilà. Donc je vais poursuivre avec une actualité qui est plutôt une bonne nouvelle sur un sujet que j'aborde pas assez souvent parce que j'avoue ne pas être encore très très experte de ce sujet. Il s'agit des violences obstétricales et gynécologiques. Donc il y a une association en fait qui a été un collectif qui s'appelle Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Qui est notamment créée grâce à Sonia Biche. Donc, j'avais traité un peu de ce sujet dans un podcast qui date un peu maintenant, mais on en avait parlé en fait avec Marie-Paul Grostet de Oser le Féminisme 13. Marie-Paul Grostet qui est malheureusement décédée. Et on avait abordé ce sujet. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le docteur Émile Daraï, qui commettait des violences gynécologiques sur ses patientes et qui a été accusé par des patientes de viol, a été définitivement démis de ses fonctions de chef de service et de responsable pédagogique. Donc c'est une sanction qui est une première reconnaissance institutionnelle des violences gynécologiques. Il a été visé par au moins 6 plaintes pour viol, dont un dénoncé par une mineure. Donc on remercie Sonia Biche, donc son collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, et le magazine Flush qui a sorti en premier un article sur cette affaire. Alors la commission interne de l'APHP a écrit ceci. Le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la consultation, parfois brutale et sans empathie, ne saurait convenir. C'est ce qu'a écrit donc cette commission d'enquête interne de la PHP dans la conclusion de son rapport, qui ne retient toutefois, je cite, « aucune connotation sexuelle, alors que certains manquements ont été relevés dans le recueil du consentement à certains gestes. Ces manquements, ainsi que la, je cite, « douleur, information, la, ainsi que la douleur, l'information, l'absence d'empathie, sont les caractéristiques de ce que la Haute Autorité de Santé qualifie de maltraitance ou d'absence de bientraitance. » Alors, c'est quand même... Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'est plus chef de service, il n'est plus responsable pédagogique. Par contre, c'est quand même une situation absurde pour toutes les victimes qu'il a faites. Car s'il n'est plus chef de service, il peut continuer d'exercer ses fonctions de gynécologue. Donc, une de ses victimes a réagi en disant « Je suis assez estomaquée par cette décision ». Elle avait fait un signalement à l'hôpital Tenon en 2014 après avoir consulté donc ce gynécologue, et elle dit: les blessures des victimes sont niées à un tel point que l'on considère que cela peut continuer. C'est grosso modo, on n'est pas d'accord avec les pratiques du professeur Darail, mais il peut continuer à les avoir. Alors effectivement, c'est absurde qu'il continue à exercer, mais il est néanmoins probable que de nombreuses femmes vont désormais éviter ces consultations vu la quantité d'articles qui relatent ces mauvaises pratiques. Au-delà de ce cas individuel, il faut se féliciter qu'il y ait quand même un avertissement à l'ensemble de la profession, ce qui pourra peut-être, on l'espère, contribuer à changer les pratiques. Les femmes ne se contentent plus d'utiliser les voies judiciaires pour tenter, malheureusement souvent en vain, de se faire entendre. Aujourd'hui, elles s'organisent, elles utilisent les voies médiatiques pour être entendues, et on peut voir que bien, ça marche. Donc elles ont bien raison de le faire. Donc je vais vous faire écouter du coup une interview de Sonia Bisch. Une petite interview, donc voilà, puisqu'elle est spécialiste et elle a été interviewée sur France Info. Donc voilà, je vous la fais écouter.
Stop aux violences gynécologiques et obstétricales, à l'origine des tout premiers témoignages à l'encontre de ce professeur Émile Darail. En attendant l'instruction des plaintes par la justice, l'enquête interne à la PHP aboutit donc à son retrait définitif de ses responsabilités de chef de service. Est-ce que c'est un premier pas, un premier soulagement pour les victimes, ou le mot est trop fort ?
Alors, nous saluons la reconnaissance par la commission de la PHP du caractère systémique des violences obstétricales. Alors, je les cite, la situation actuelle est le fruit de dysfonctionnements individuels, mais aussi collectifs et systémiques. Donc, fin de la citation. C'est vrai que ce n'est pas du tout des cas rares isolés, hein. C'est ce qu'on se rend compte à Stop Vogue. Nous, on reçoit en moyenne 200 témoignages par mois de violences obstétricales et gynécologiques. Donc, l'affaire Darail, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, ça, c'est une première chose. Malheureusement, nous regrettons quand même que le professeur soit simplement mis en retrait de ses fonctions, mais qu'il puisse continuer à recevoir des patientes, continuer ses opérations, ses consultations comme d'habitude.
Il y a une des premières plaignantes qu'on entendait sur France Info ce matin qui réagissait à cette décision et qui se disait, elle, estomaquée, elle trouve que c'est incompréhensible et qu'en fait, du côté de la PHP, on débarque, hein, je la cite toujours, dans le monde réel après des années chez les bisounours.
Oui, il faut quand même rappeler que le professeur Darail, il est mis en cause par au moins 14 plaintes actuellement au pénal pour viol, enfin il faut le rappeler, viol sur mineur, viol en réunion. À Stop Vogue, nous avons quand même près de 180 témoignages des violences le concernant, et puis 40 concernent d'autres praticiens de l'hôpital.
La commission d'enquête interne à la PHP va un peu moins loin dans son rapport. Elle évoque, comme vous l'avez dit, le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la consultation, qui pouvait parfois être brutale et sans empathie, une consultation qui ne saurait donc convenir. Mais elle ne retient pas, dans les manquements relevés, la connotation sexuelle.
Oui, tout à fait. Mais il faut quand même le dire, depuis 2014, il y a eu 10 signalements de patientes donc à l'hôpital, autant à l'ordre des médecins, qui n'ont pas été pris en compte. Si les étudiants sont venus nous trouver, Stop Vogue, pour dénoncer ce qui se passait, c'est parce que les institutions censées protéger les patientes ont été défaillantes, clairement. Donc ça, c'est au niveau de l'hôpital. Et au niveau de l'ordre des médecins, il faut quand même rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport de décembre 2019, pointait, je cite, un manque de rigueur et d'impartialité dans le traitement des plaintes des patients, notamment pour des faits à caractère sexuel. Vous voyez, la Cour des comptes a retenu que seulement 22% des signalements reçus sont traités comme des plaintes. Le reste, voilà, près de 80% en fait des signalements sont sans suite. Donc ouais, ça participe à l'impunité.
Ça,
voyez,
c'est choquant pour vous.
Bah oui, ça participe à l'impunité des violences obstétricales gynécologiques. Mmh. On peut pas, voyez, laisser des témoignages. Enfin, les violences obstétricales gynécologiques, elles appartiennent à toutes les violences sexistes et sexuelles. Et il y a les mêmes mécanismes de mépris voyez, de la parole, de déni, de culpabilisation des victimes. Et c'est plus possible. Il faut les entendre. Ça fait près de 10 ans que c'était dénoncé. Et là, il y a besoin de mesures fortes, que ce soit du gouvernement ou de la PHP.
Le médecin Émile Daraï, qui dans un premier temps contestait les faits et les jugeait diffamatoires, a écrit en début de semaine à Martin Hitch. Martin Hirsch, le directeur.
Bon, voilà, j'arrête là. Voilà, donc je vais passer à une autre actualité. Il s'agit de Margot Pinault, qui accuse son compagnon et entraîneur d'agression. Donc, il a été arrêté dans la nuit du 27 au 28 novembre. L'ancien judoka Alain Schmitt a pourtant été relaxé le mardi 1er décembre. Après les accusations de violence conjugale de Margot Pinault, la jeune femme, championne olympique à Tokyo en 2021, ayant reçu de nombreux coups au visage de la part de son compagnon et entraîneur qui se trouvait en état d'ivresse selon des sources policières, elle avait été transportée à l'hôpital Avicenne à Bobigny pour y être soignée. « J'ai frôlé la mort », c'est ce qu'elle a confié. Elle a porté plainte. Elle dit « Je suis sous le choc, c'est un événement difficile, quelques minutes d'ultra-violence, c'est bizarre, mais je suis reconnaissante envers le judo. Le judo m'a apporté la combativité. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce au judo. Si j'avais lâché, ça se serait passé différemment peut-être. J'ai des bleus sur le crâne, au visage, j'ai une fracture au nez. Je fais encore des examens médicaux car j'ai des vertiges. Je suis chanceuse, je suis solide, je fais du judo, mon corps est armé. » Donc elle a témoigné. Voici un autre extrait de son témoignage sur ce qui s'est passé. Donc son entraîneur Alain Schmitt, a commencé à me dire que ma carrière était foutue, qu'il trouverait quelqu'un pour me niquer dans le judo, que j'étais débile, destructrice. Je suis alors retournée dans mon lit et je me suis bouché les oreilles car j'ai l'habitude d'entendre de tels propos de sa part. J'en ai marre que cela reste ensuite dans ma tête pendant des semaines. Je me sens dévalorisée. J'ai moins de confiance en moi depuis des mois. Là, il s'est approché du lit, il a fait un geste vers moi et je l'ai repoussé. C'est à ce moment-là qu'il m'a pris par les cheveux et tiré vers le sol, à gauche du lit. J'étais sur le dos et il s'est mis un califourchon sur moi. Il a commencé à me mettre des coups de poing, droite, gauche. Je lui ai crié de s'arrêter. Je ne me suis même pas défendue, je ne savais plus où étaient mes bras. J'ai vraiment essayé de le raisonner et j'ai voulu me relever. J'ai réussi à aller dans la pièce d'à côté où il m'a rattrapée et remise au sol. Il a commencé à prendre ma tête pour la cogner plusieurs fois au sol. Après cet épisode, il a voulu m'étrangler, ou en tout cas il a mis ses mains autour de mon cou. J'étais de nouveau sur le dos. J'ai essayé de le repousser avec mes jambes pour qu'il ait moins de prise. Je lui ai dit « Alain, je t'aime, je vais me remettre avec toi, stop ça, on va discuter. » Il me dit « D'accord, qu'on va discuter 2 minutes. » C'est le moment où il a desserré les mains et j'ai pu le repousser sur le côté. J'ai pu me relever. Dans le couloir, il m'a de nouveau rattrapé. On s'est mutuellement projeté sur les murs. À ce moment-là, je me suis dit que soit j'arrivais à me dégager de lui, soit j'étais morte. C'est mon instinct qui a parlé. Je devais sortir de mon appartement pour survivre. J'ai ouvert la porte et je me suis mise à courir. Il m'a suivie. Nous nous sommes retrouvés dans le couloir de l'immeuble. Il m'a retenue une dernière fois par les cheveux. Donc témoignage terrible, et donc je vous disais que dans la nuit du samedi 27-28 novembre, Alain Schmitt a été arrêté pour violence conjugale sur sa compagne, mais ce qui est incroyablement scandaleux, c'est qu'il a finalement été relaxé par le tribunal de Bobigny dans la nuit du mardi 30 novembre à mercredi 1er décembre pour manque de preuves. Le tribunal a dit « Nous n'avons pas assez de preuves de culpabilité. Le tribunal vous relaxe. » Donc c'est ce qu'a dit la présidente du tribunal correctionnel après avoir écouté les récits contradictoires de la championne et de son compagnon. J'ai du mal à trouver les mots. Donc Margot Pinault dit « J'ai été insultée, rouée de coups de poing. Ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises et finalement étranglée. Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures et le sang jonchant le sol de mon appartement? Que manquait-il? La mort au bout, peut-être. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ce déni de justice est vraiment scandaleux. La justice patriarcale continue de minimiser les violences faites aux femmes. À quand la fin de l'impunité des agresseurs ? Tout notre soutien à Margot Pinault. Donc chaque nouvelle actualité de ce genre je pense comme vous, me révolte terriblement. Je ne comprends pas comment c'est possible en France au XXIe siècle. Et effectivement, elle disait qu'est-ce qui manquait, la mort. Ça me fait penser en fait à cette autre affaire dont je vous avais déjà parlé, mais je ne l'ai pas remis à jour en fait. Du coup, ça serait peut-être le moment d'en reparler de cette affaire après tout. Donc je n'avais pas eu le temps de vous reparler de cette affaire. Donc Alexandra Richard, cette femme qui a vécu donc des violences terriblement, des violences conjugales, des violences sexuelles pendant des années, qu'elle a dénoncées, elle a porté plainte, n'a pas été protégée. Pour finir, son conjoint, qui l'a menacé régulièrement de mort, avait sorti un fusil et l'a menacé de mort ce jour-là, une fois de plus. Elle, eh bien, a réagi comme Margot Pinault, c'est-à-dire « c'est lui ou moi, je vais mourir ». Elle a réussi, je dis en légitime défense, à retourner l'arme contre lui, à le tuer. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la justice ? La justice aurait préféré qu'elle soit morte, visiblement, puisqu'il n'y a pas eu considération de la légitime défense pour elle, pour Alexandra Richard. C'est terrible. Et en fait, elle a écopé de 10 ans de prison, déjà en 2020, et puis en 2021, dernièrement, donc le 23 octobre 2021, ça s'est reproduit, c'est-à-dire qu'il y avait à nouveau le procès, un recours, et ils ont confirmé, la justice a confirmé la condamnation à 10 ans de prison. Voilà, donc je trouve ça terrible. Donc je pense que ça vaut le coup que je prenne le temps de vous lire ce résumé de la dernière chronique judiciaire qu'on a fait Oser le féminisme, que je salue, donc une association que vous devez connaître bien sûr, et qui suit souvent les affaires comme ça, et qui soutient les femmes et qui les accompagne. Donc voilà, il y a, je vais relayer cette donc chronique judiciaire. Voilà. Donc Alexandra Richard, humiliée, niée et condamnée, un procès sous le signe de la toute-puissance masculine et du déni de la parole des femmes, c'était le 23 octobre 2021 dernier. Chronique judiciaire, la justice refuse une nouvelle fois la légitime défense à une femme, victime de violences conjugales. Retour sur un procès honteux, théâtre d'humiliation et de dénigrement, qui culpabilise et revictimise une victime. Alexandra Richard a été de nouveau condamnée donc en appel à 10 ans de prison pour homicide volontaire sur la personne de son conjoint violent, Sébastien Geste. Ce verdict inique et presque impossible à croire est tombé le samedi 23 octobre à 20h30. La cour d'assises d'Évreux a rendu quasiment le même verdict qu'en première instance qui était en novembre 2020. N'avons-nous rien appris sur la légitime défense des femmes victimes de violences conjugales depuis les affaires Alexandra Lange, acquittée en 2012 à la demande du procureur Luc Frémiot. Donc lui, il s'agit d'un procureur qui est plutôt bien. Et Adrina Sampaio, acquittée en 2020. Ni rien sur le phénomène d'emprise, pourtant entré dans le code pénal via la loi du 30 juillet 2020. Depuis Jacqueline Sauvage, graciée en 2016, ou Valérie Bacot, qui a finalement été libérée en 2021. Donc le cas Valérie Bacot, j'en ai parlé, vous pouvez regarder dans les derniers podcasts, c'est vraiment un cas emblématique aussi. Ce procès tout entier traduit l'incapacité de la justice à comprendre le phénomène des violences conjugales et ce qu'elles produisent sur les victimes en termes de psychotraumatisme, de mémoire traumatique, de souvenirs parcellaires. On a accusé Alexandra Richard d'être dans la surenchère, d'en rajouter sur les violences qu'elle a rapportées durant le procès. Oui, le discours d'une victime évolue dans le temps, d'autant plus quand les institutions sont directement responsables de n'avoir pas pleinement recueilli sa parole. Tout au long des débats, aussi bien dans les interventions des avocates des parties civiles que dans celles de l'avocat général, on a minimisé la violence de Sébastien Geste et nié sa dangerosité. En somme, tout le contraire des recommandations des institutions européennes et internationales qui insistent sur l'importance de valoriser la parole des victimes de violences conjugales et de rompre avec l'impunité des agresseurs. Notons avant toute chose que la capacité d'accueil extrêmement basse et une priorisation arbitraire des personnes a maintenu les associations féministes aux portes du tribunal pendant une grande partie des débats. Aucune considération n'a donc été accordée aux associations féministes, alors même que nous avons été les premières informatrices de la presse pour éclairer ce fait social de nos analyses et pour déconstruire les idées reçues. Un procès hors norme dans sa tenue. Ce procès s'est déroulé de manière honteuse. L'avocat général Patrice Lemonnier a maintenu durant 5 jours une posture archaïque et patriarcale, volontairement provocatrice. Il s'est permis de crier sur les témoins et les experts, dès lors que ceux-ci étaient en faveur d'Alexandra, leur coupant même la parole, les intimidant à loisir, sans jamais être rappelé à l'ordre par la présidente Julie Arzufi. Cette dernière n'a mené aucune police d'audience durant le procès, laissant l'avocat général en roue libre tenir des propos ouvertement sexistes, gratuitement offensants, des commentaires désobligeants, clairement en rupture avec les obligations de déontologie des magistrats. Tout au long du procès, on a cherché à maintenir l'ignorance autour du fait social des violences conjugales, qui comprennent toujours des violences sexuelles, et à nier la pertinence d'apporter des éléments d'éclairage sur cet enjeu clé du procès, via la parole de personnes formées et instruites sur ces questions. Quand Alexandra Richard a témoigné des violences qu'elle avait vécues, l'avocat général l'a accusée de mentir, révélant son incapacité, feinte ou réelle, à comprendre les conséquences psychotraumatiques des violences, comme l'amnésie traumatique par exemple. Il usera d'euphémisme à l'envi pour dépeindre Sébastien Geste, je cite « Moi je dis qu'il avait à l'évidence des travers ». Dans un exemple parfait de négation des violences sexuelles propres à la culture du viol, il a remis aussi en doute le fait que Sébastien Geste était un violeur. Cette culture du viol, on la retrouve chez les avocates des parties civiles, maître capitaine, avocate des parents de Sébastien Geste, qui a nié les viols et réduit les violences conjugales à l'histoire d'un couple fusionnel qui a dérapé. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ces viols, viols conjugaux. En fait, Sébastien Geste était un addict au site porno et donc imposait des pratiques sexuelles violentes sans se préoccuper du tout de l'envie ou du désir d'Alexandra. Alors je poursuis. Donc c'est du viol. Patrice Lemonnier, l'avocat général, n'a pas nié l'existence de menaces de mort en elle-même, mais il a refusé à Alexandra Richard le droit de les avoir prises au sérieux le jour du drame. Ça fait des années qu'elle est menacée de mort. Il ne se passe rien. Quel est l'intérêt de tuer ce jour-là ? On sait pourtant bien que les féminicides ont souvent lieu après des années de menaces de mort. Mais le plus étonnant, dans le réquisitoire de Patrice Lemonnier, est peut-être le doute qui en ressort et qu'il ne cherche pas à cacher. Je cite « Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, nous n'en savons rien ». Malgré ce doute assumé, il a demandé à ce que soit maintenue la condamnation pour homicide volontaire assortie d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Un déni de justice. Ce procès montre que la justice est l'un des principaux verrous dans le combat pour l'éradication des violences faites aux femmes. Ce jugement est celui d'une justice qui favorise l'impunité des agresseurs et revictimise les femmes en les condamnant pour avoir osé se défendre. Une justice qui traite encore les femmes fondamentalement différemment des hommes. Quand Sébastien Geste a tiré sur un homme par jalousie à 19 ans, cela ne lui a coûté qu'une peine aménagée de 8 mois. Là, je suis obligée de relire cette phrase pour me dire, mais oui, d'accord, incroyable. Un homicide par un homme, c'est peine aménagée de 8 mois. Waouh. Il n'a eu aucune interdiction de port d'armes. Waouh. Mais pour Alexandra, c'est une toute autre, entre guillemets, justice qui balaye sa vie entière. Oui, c'est... tout simplement scandaleux. Donc, effectivement, je suis d'accord que la justice est vraiment un verrou, là, on ne peut pas dire autre chose, face aux violences faites aux femmes. Il y a vraiment quelque chose qui va très très mal. Voilà, Donc je regarde, je vais peut-être faire une petite pause musicale pour reprendre mon souffle et poursuivre ensuite. Donc je vais faire une pause avec une chanson de Mathilde, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc voilà, c'est une chanteuse très engagée, très féministe, qui elle aussi a vécu des violences et qui chante, et qui chante très très bien. Donc je vais vous faire écouter une de ses chansons qui s'appelle « Guerrière de lumière ».
Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
La nuit, on colle, le jour, on casse du troll. Dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur, on sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on te voit. Nous, on te lâchera pas. Parce que nous, tu sais, on n'est pas des tissages, pas plus que des frivolages. Nous, on est juste des meufs sûres, sûres d'avoir des droits. Au moins, je sais même que toi, tant qu'on nous les donnera pas, nous, oui, on les arrachera à monsieur patriarcat. Celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine, en haut de la pyramide, de ton sexisme assumé. De mecs aux privilégiés qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous, on est des guerriers de lumière, fort et fière. Sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche, dégagez patriarche. Soyez pas surpris, c'est la fin du crédit. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Parce que nous, oui, non, on est féministe, oui, féministe radical. Après tout, c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral. Comment pas devenir misandre dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide qui flingue notre dignité à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser. Sauf que tu sais, nous on est, nous on est, nous on est, nous on est des guerriers de lumière, fort et fier, puissante, combat.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc je viens vous parler du cas d'Alexandra Richard avec un grand déni de justice. Et du coup, si vous voulez, la justice, donc, qui est un verrou par rapport aux violences faites aux femmes, qui crée une impunité pour les agresseurs, si vous voulez un peu avoir l'impression de faire quelque chose, eh bien, je vous encourage à aller vous taper sur le net clarifions la loi sur la légitime défense et vous trouverez une action pour changer cette loi. Voilà. Alors, je vais poursuivre maintenant avec, toujours sur les violences, mais avec les violences concernant les enfants particulièrement. Donc, je vais vous parler du premier avis qui a été rendu de la commission indépendance, inceste et violences sexuelles faites aux enfants. Donc, c'est la CIVIS. Donc, il y a eu trois recommandations qui ont été émises lors de révélations d'inceste paternel pour protéger les enfants, victimes et les mères protectrices à appliquer d'urgence. Ce sont les recommandations donc, des associations qui protègent les enfants, des associations féministes aussi. Et donc, trois bonnes recommandations qui demandent une suspension de l'autorité parentale, donc le plus souvent le père, des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause par l'inceste, donc à 95% le père, l'arrêt des poursuites pour non-représentation d'enfants du parent protecteur, donc très grande majorité la mère, et le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour violence sexuelle incestueuse. Alors j'ajoute que le collectif pour l'enfance a aussi vient d'écrire une lettre pour prendre en compte le fait que la suspension de l'autorité du père en cas d'inceste se fasse dès le début de l'enquête policière et non à la fin du procès. Voilà, parce que là, c'est pas encore ça du tout. Donc, on demande de protéger l'enfant dès qu'il y a l'enquête et qu'il y a qu'une mère veut protéger son enfant du père incestueux et pas attendre toute la fin du procès, évidemment, qui risque d'être très long, avant de suspendre les droits de visite et d'hébergement de ce père incestueux. Donc, ce rapport précise cette commission indépendante inceste et violences sexuelles faites aux enfants. Précise donc qu'il est urgent de protéger les mères protectrices au lieu de les soupçonner, comme c'est très très souvent le cas dans cette justice patriarcale. Eh bien, souvent les mères, donc si vous ne le savez pas, qui dénoncent l'inceste, eh bien se retrouvent, elles, accusées d'un symptôme qui n'existe pas, qui s'appelle l'aliénation parentale, qui est un pseudo-syndrome qui a été inventé par un psychiatre américain, Gardner, qui, dans ses livres, édités à compte d'auteur, faisait la promotion des actes sexuels entre adultes et enfants. C'est quoi ce syndrome ? Eh bien, ce pseudo-syndrome d'aliénation parentale, SAP, n'a aucune validité scientifique. Il est réfuté par la communauté scientifique internationale et il met en danger les enfants. Le Parlement européen a voté une résolution le 6 octobre dernier exhortant les États à interdire de l'utiliser dans le cadre des procédures judiciaires. Pourtant, on a vu encore en France, encore récemment, il ressort sans arrêt. Il est intolérable que les mères protectrices soient sous couvert de ce pseudo-syndrome, ne soient pas crues, voire même condamnées pour non-représentation d'enfants et désenfantées. L'enfant victime étant remis au père ou placé. Il est urgent de proscrire ce pseudo donc SAP, syndrome d'aliénation parentale, d'interdire les citations directes pour non-représentation d'enfants et de suspendre les poursuites contre les mères. Le principe de précaution et la protection des enfants doivent primer. Dans le cadre de révélations de violences sexuelles commises sur des enfants, tous ces enfants doivent bénéficier du principe de protection et être protégés de l'agresseur désigné. De même, toutes les personnes qui protègent ces enfants et qui signalent les violences sexuelles qu'ils ont subies doivent bénéficier d'une protection par rapport à des risques de poursuites pénales ou disciplinaires. Donc pour l'instant, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Je vous avais parlé aussi dans des podcasts précédents qu'on a vu au contraire même des médecins qui dénonçaient des violences sexuelles sur les enfants qui suivaient. Et en fait, pareil, ça s'était retourné contre eux. L'agresseur leur avait fait un procès et ces médecins n'avaient pas été protégés. Et d'ailleurs, pour faire changer les choses, il y a aussi une action que vous pouvez faire concernant cela, pour demander une pétition, pour demander le signalement des enfants en danger qu'ils deviennent obligatoires. C'est l'association Face à l'inceste qui a mis en ligne cette pétition. Puisque depuis des années, les professionnels de santé ne font que 5% des informations préoccupantes et des signalements pour protéger les enfants maltraités. Actuellement, le signalement est dérogatoire, il n'est pas obligatoire pour les professionnels de santé qui sont tenus au secret. Et voilà, et souvent, quand, actuellement, dans l'état des choses et de la justice, quand ils dénoncent, eh bien, quelquefois, ça se retourne contre eux. Donc, si vous voulez agir, vous pouvez exiger de changer cette loi pour protéger les enfants et les professionnels qui les défendent. Voilà, donc je poursuis. Voilà, donc ces professionnels, il y a donc, là je suis en train de ce rapport-là, cette synthèse en fait, j'ai lu pas mal de choses pour savoir, et en fait notamment je vous conseille, c'est Muriel Salmona qui m'informe de ce qui se passe, et puis aussi Andrea Bescon qui suit aussi tout ça de près. Donc entre autres, ce sont elles qui m'ont permis de vous informer aussi à mon tour. Donc voilà, je vous disais, voilà, quels sont ces professionnels. Voilà, alors je continue sur ce pseudo syndrome d'aliénation parentale qui peut également être décliné, qui a été décliné et utilisé contre des mères protectrices d'enfants vulnérables, comme ceux en situation de grand handicap, qui rapportent des violences sexuelles subies dans des institutions pour mettre en cause la crédibilité de ce que dénoncent les enfants. Donc voilà, on n'écoute plus les enfants, on accuse les mères voilà, de ce syndrome d'aliénation qui ne veut rien dire en fait, c'est juste voilà, pour pas les écouter. Et, aliénation, ça voudrait dire qu'elles sont en train de manipuler leur enfant, quoi. Et du coup, c'est la mère qui serait folle, quoi, bien sûr. Donc pour rappel, les enfants en situation de handicap subissent 3 fois plus de violences sexuelles et même 5 fois plus en cas de handicap mental. Les parents protecteurs, les soignants qui signalent et les lanceurs d'alerte dans les institutions doivent être protégés, et on doit aussi changer et demander l'obligation de signalement. Donc voilà, ce sont des bonnes recommandations de cette commission. Donc espérons qu'elles seront prises en compte dans les lois. Alors ensuite, je voulais relayer aussi, je ne retrouve plus parce que j'ai tellement de trucs là, un article de Titiou Lecoq qui expliquait aussi très bien tout ça. Ah voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Donc, une publication de Titiou Lecoq. Qui revient sur ce rapport de la CIVIS et qui revient aussi sur ce pseudo-syndrome d'aliénation parentale. Violences sexuelles faites aux enfants, pour en finir avec le pseudo-syndrome d'aliénation parentale, par Titiou Lecoq. Près de 22 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles commises par leur père, selon la CIVIS. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Le premier avis rendu public par cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, il faut savoir qu'il y a eu 6200 témoignages en 8 semaines pour faire ce rapport, est un véritable coup de tonnerre. Il attaque frontalement le fonctionnement général du système en préconisant une chose qui peut paraître tomber sous le sens, ne pas commencer par mettre en doute la parole des enfants accusant un parent d'inceste, mais à l'inverse, le croire. Or, par rapport à la situation actuelle, c'est bougrement révolutionnaire. Pour mieux comprendre, il faut revenir à la fin des années 1990. Des associations de pères s'indignent et accusent les mères d'utiliser de fausses allégations de violences sexuelles contre leur mari pour obtenir la garde exclusive des enfants. On dit alors qu'il y aurait une hausse du nombre de violences sexuelles rapportées dans le cadre d'un divorce. Il se trouve que c'est faux. Les chiffres de l'époque montrent une stabilité. Mais médiatiquement, ça prend. On entend ses pères un peu partout, assez vite. On entend ses pères un peu partout, et assez vite s'ancre le stéréotype de l'enfant manipulé par sa mère, et le concept d'aliénation parentale est brandi. Pseudo-syndrome, comme je vous disais, inventé par un psychiatre américain Garner, qui dans ses livres faisait la promotion, en plus des actes sexuels, entre adultes et enfants. C'est au point qu'en 2021, le ministère de la Justice demande un rapport sur la situation. Quand on le lit... Non, en 2001, pardon. Donc en 2001, le ministère de la Justice demande un premier rapport sur la situation. Quand on le lit, on se rend compte à quel point il est opposé aux conclusions actuelles de la CIVIS. Ses auteurs expliquent longuement le syndrome d'aliénation parentale et surtout se félicitent de la prudence de l'institution face à ces paroles d'enfant. À l'époque, on pense donc que ce n'est pas parce qu'un enfant dit avoir été violé par son père et qu'une procédure pénale est ouverte qu'il faudrait priver ce père de ses droits. Ce n'est pas parce qu'il y a plainte qu'il faudrait préjuger sans tenir compte de là. Je vous laisse deviner ? Oui, de la présomption d'innocence. En cas de plainte contre le père, on ne voit donc pas pourquoi on le priverait d'un droit de visite de son enfant. Dans ce rapport de 2001, assez édifiant, les auteurs sont même outrés parce qu'une juge a suspendu le droit de visite d'un père à sa fille, alors que c'est son fils qui se disait victime. Ils trouvent la juge un peu trop sévère. Mais ce rapport n'était pas exceptionnel, c'était l'opinion générale qui prévalait à l'époque. On a été abreuvé de cette idée d'enfants manipulés qui mentent, et cela a été malheureusement renforcé par l'affaire Outreau dans les années suivantes. On peut également se reporter aux travaux de Gwenola Sueur sur la propagande autour du pseudo-syndrome d'aliénation parentale. Cette théorie a connu un immense succès, y compris au sein de l'institution judiciaire, avec des formations sur le sujet proposées aux magistrats. Dans le succès toujours actuel de cette théorie, on retrouve l'idée qu'en règle générale, il faut se méfier de ce que disent les victimes, adultes comme enfants. Il flotte une présomption de mensonge permanente à leur encontre. Donc, une présomption de mensonge. Et puis, si ce syndrome fonctionne aussi bien dans nos esprits, c'est parce qu'il résonne avec nos inconscients sexistes. Plus précisément, c'est parce qu'il fait appel à une image sexiste des mères. Les pères seraient des victimes et les mères des bourreaux. Les mères sont soupçonnées d'être trop fusionnelles avec leurs enfants. On voit dans leur fonction maternelle un pouvoir dont la société doit se méfier. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on nous a seriné que le rôle des pères était de séparer enfants et mères et que c'était nécessaire et sain. Il y a une injonction paradoxale. Il faudrait à la fois se consacrer à son foyer et à ses enfants et en même temps, on est toujours soupçonné de ne pas bien faire, d'en faire trop ou pas assez. Bref, les pères seraient heureusement là pour stopper les délires érotico-fusionnels des mères. Mais les mères ne le supporteraient pas et seraient en permanence en train d'essayer de monter leurs enfants contre les pères, notamment au moment de la séparation. Des juges aux affaires familiales disent ne rencontrer que 3 à 4 fausses allégations d'agression par an sur 700 à 1000 dossiers. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le faire savoir. J'exagère à peine. La preuve avec cet extrait du rapport de 2001. Je cite « La signification sexuelle, au sens de la pulsion, non de la réalité, du divorce pour l'enfant, à travers la perception des disputes, de la fragilité de la mère, de la régression-confusion qui peut pousser une mère à se satisfaire d'une relation de type primaire avec un enfant devenu tout, plus l'enfant est jeune, moins il peut se mettre à distance d'une entreprise inconsciente de séduction qui va rendre d'autant plus insupportable la séparation hebdomadaire et le rapprochement physique avec l'ex-partenaire. Un père séparé qui fait dormir un enfant dans son lit ne peut que remplacer l'objet sexuel qui fut la mère de l'enfant, projection inconsciente de ce que réalise cette mère dans sa surattention envers l'enfant dans une interrelation régressive. » Ouh là là. Donc, je vous le traduis. Ça serait la mère qui projette son propre penchant incestueux sur le père. Ouf. Bien sûr, cela peut arriver. Je sais que je vais recevoir des mails pour me parler de situations bien précises. Alors soyons clairs, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il faut cesser de faire comme si c'était le cas dans la majorité des séparations. Prenons les chiffres d'abord. Il ne faut pas perdre de vue que cela ne concerne que très peu d'affaires. Dans ce livre « Allégations d'abus sexuels, paroles d'enfants, paroles d'adultes », Madame M.C. Georges, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance, le TGI de Créteil, indique que ses collègues et elle-même considèrent qu'ils rencontrent 3 à 4 fausses allégations d'agression sexuelle par an sur 700 à 1000 dossiers. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce chiffre-là, qui est très proche des ratios que nous trouvons dans la précédente étude. Donc les fausses allégations sont vraiment très rares. Croire l'enfant, un principe de précaution. En réalité, c'est même la faiblesse de ce chiffre qui devrait nous alerter. Comme l'écrit la Civise, nous pouvons estimer que près de 22 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles commises par leur père. Chiffre obtenu à partir de l'estimation de 160 000 enfants subissant des violences sexuelles par an, et les pères en sont responsables, dans 14% des cas pour les femmes, dans 10% pour les hommes. Pourtant, en 2020, seules 1697 personnes ont été poursuivies pour viol incestueux sur mineurs ou pour agression sexuelle sur mineurs. Attention, quel que soit le lien de parenté avec la victime, cela inclut donc les beaux-pères, grands-pères, etc. En 2018, seules 760 personnes ont été condamnées pour l'une ou l'autre de ces infractions, incluant donc toujours tous les types de rapports parentaux. Le service statistique du ministère de la Justice ne dispose pas de données affinées sur le sujet. Il n'est pas possible d'isoler le nombre de poursuites relatives à des incestes paternels. La réalité, c'est que les violences sexuelles faites aux enfants font l'objet d'une sous-révélation massive. Or, quand les enfants parlent et que leur mère relaye leurs paroles, ce sont elles qui sont soupçonnées. Il y a une contradiction manifeste entre notre imaginaire, toutes ces femmes qui manipulent leurs enfants pour les pousser à accuser leur ex, et la réalité, une énorme sous-dénonciation des incestes. C'est en prenant acte de ces chiffres et en tirant les conséquences que la Civise fait des propositions opposées à beaucoup de pratiques actuelles, sachant que cela dépend évidemment des juges. Ainsi, la Civise note que poursuivre une mère pour non-représentation d'enfant, c'est d'abord la soumettre à l'injonction paradoxale, protéger son enfant ou respecter la loi, mais c'est aussi envoyer l'enfant là où il ne veut pas aller parce qu'il est victime de violences. Quand un enfant révèle des violences, il est impératif de le protéger et de le mettre en sécurité immédiatement. Croire l'enfant, c'est avant tout un principe de précaution. L'équation est délicate. La justice doit faire son travail, juger, condamner le cas échéant. Or, il ne s'agit pas ici de juger ou de condamner, mais de voir l'intérêt supérieur de l'enfant, et donc en premier lieu de le protéger. Les dénonciations de violences sexuelles par les enfants sont tellement rares que nous devons y prêter la plus grande attention et le plus grand sérieux. C'est pour cela que la Civise se déclare pour des mesures immédiates, même si temporaires, dans l'attente du procès. Voilà. Donc, désolée si c'est un petit peu long tout ça, mais c'était d'après moi très, très instructif pour compléter comment on est arrivé à cette très bonne recommandation de cette commission, de voir un peu le chemin qui a été parcouru. Le tout, c'est qu'elles soient vraiment appliquées, ces recommandations, ce qu'on espère. Pour l'instant, donc, il y a du chemin à faire, c'est pas encore le cas. Donc, il y a des actualités, quelques actualités que je vais relayer, que j'ai eues grâce à Andrea Bescon, qui est une femme bien féministe, activiste aussi pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, contre l'inceste, etc. J'ai su grâce à elle quelques actualités pas très réjouissantes. Donc notamment celle-là. Donc en Tarn-et-Garonne, Gilles Lejeune a agressé sexuellement 11 fillettes entre 2013 et 2018. Il a été condamné en juillet 2021 à 6 mois de prison, qu'il effectuera à domicile sous la forme du port d'un bracelet électronique. Il est également condamné à 18 mois de prison avec sursis simple et suivi socio-judiciaire. Il a été condamné en juillet, il n'a vu le juge des peines qu'en novembre et portera son bracelet électronique à domicile seulement en juillet 2022, si la situation n'a pas changé entre-temps. Gilles Lejeune avait déjà agressé sexuellement à Valence d'Agen. Il avait été évincé par la mairie, qui n'avait pas jugé utile d'alerter la police. Gilles Lejeune détenait également plus de 1500 images pédopornographiques à son domicile et aujourd'hui, il est encore libre de circuler. Voilà, donc une peine complètement ridicule, 6 mois de prison, voilà, il peut se promener dans la... Il est libre de circuler et il a agressé 11 fillettes. Ok. À Montauban, toujours dans le Tarn-et-Garonne, un maçon possédait 6825 fichiers pédopornographiques et il a écopé de 8 mois de prison avec sursis. L'expertise psychiatrique a révélé qu'il n'était pas dangereux et il exerce toujours. Ok. Il y a aussi un autre homme qui a été jugé pour crime d'inceste sur sa nièce en cour d'assises du Lot. Alors, le tribunal l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis. Les experts psychologues et psychiatres ont estimé que le risque de récidive était très faible. Ah bon ? Et donc, il ne fera aucune journée de prison ferme pour la souffrance infligée à sa nièce, comme si c'était pas grave, pas vraiment condamnable. Donc en France, Andrea Bescon dit quand tu violes ta nièce, eh bien la justice te met juste un petit coup de pression, rien de plus. Il y a eu aussi récemment l'affaire de Pau. Elle avait 14 ans, lui 27 ans. Il l'a violée une trentaine de fois et il a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Ouais, c'est vraiment scandaleux. Donc Andrea Bescon ajoute « Stop à la déqualification des viols en atteinte sexuelle ». Stop à la correctionnalisation des affaires de pédocriminalité et d'inceste. Violer un enfant est un crime. Mobilisons-nous pour de la prévention, de la protection, de la justice. Interpellez le garde des Sceaux, le ministre à l'Enfance, le président de la République. Donc effectivement, Andrea Bescon souligne un gros problème de justice face aux violences sexuelles. Donc pour toutes les violences sexuelles, que ce soit sur adultes ou sur enfants, mais visiblement sur enfants, on dirait qu'il y a encore plus d'impunité, ce qui est complètement incroyable. Et donc il y a énormément de viols qui sont, au lieu d'être traités en cour d'assises, comme ils devraient l'être, puisque le viol est un crime depuis 1980, et donc c'est assez récent, mais au lieu d'être traité en cour d'assises comme un crime, eh bien la grande majorité des viols qui sont poursuivis, enfin des plaintes qui sont poursuivies, parce que bon, faut savoir que quand une femme porte plainte, les 3/4 des plaintes déposées par les femmes ne donnent lieu à rien du tout, donc sont classées sans suite. Voilà ce qui se passe. Et donc sur le quart des plaintes qui restent, eh bien les 3/4 du quart des plaintes qui restent sont déqualifiées. C'est-à-dire que ça devient un simple délit, même niveau qu'un vol ou que... Enfin voilà, c'est un délit, c'est rien du tout, quoi. Donc, on obtient une déqualification. Donc voilà, pas de crime et pas de... Voilà, c'est très 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 grave, quoi. Et des peines ridicules. Voilà, il y a eu aussi cette actualité relayée par Andrea Bescon, le nageur Yannick Agnel, qui aurait reconnu une relation avec une enfant de 13 ans, mais bien sûr. Donc en fait, il dit qu'elle ne faisait pas son âge, voilà, elle avait 13 ans, lui 24. Donc c'était un entraîneur adulte sur une sportive adolescente. Donc voilà, Andrea Bescon dit, elle aurait même pu montrer des signes de désir, que c'est à l'homme adulte de décliner. Il s'en va de sa responsabilité de commettre un crime ou non. Donc effectivement, une relation 24 ans, 13 ans, ça n'est pas une relation, c'est du viol. Il y a pourtant une loi, la loi PBL Billon, qui est passée pour dire que en dessous de 15 ans, il n'y a pas à consulter le consentement d'un enfant et qu'il s'agit bien d'un viol. Malheureusement, il semblerait que cette loi PBL Billon n'est pas encore appliqué parce que visiblement ces affaires-là dataient d'avant la loi, mais c'est quand même complètement aberrant. Et puis ce qui est complètement incroyable aussi, c'est que quand on est au courant de tout ça, il suffit d'ouvrir les yeux, eh bien il y a quand même en ce moment des personnes qui disent que MeToo va trop loin, que c'est dangereux, que voilà, c'est la justice des médiatiques, etc. Qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc voilà, c'est complètement dingue. Et donc voilà, en ce moment, il y a une tribune de 60 signataires qui dénoncent l'idéologie féministe de l'après MeToo. Je ne me rappelle même plus du titre de leur tribune, mais c'est vraiment un titre, là je ne l'ai pas noté, mais c'est vraiment... ignoble comme titre. Et donc dans le journal Marianne, qui est très très décevant là au niveau du féminisme en ce moment, cette tribune carrément dénonce l'idéologie féministe de l'après MeToo, comme quoi ça menacerait la démocratie, une idéologie qui démontrait la justice sans preuve. Ah bon, voilà, incroyable quoi, d'oser faire une tribune comme ça. Alors que voilà, les viols ne cessent, les chiffres, donc comme je vous viens de vous l'expliquer, ça n'arrête pas. Les condamnations sont dérisoires, etc. En fait, d'après aussi ce que je sais sur les violences sexuelles, il y a de plus en plus de plaintes, de dénonciations de violences sexuelles. Et les condamnations ont régressé, en fait. Ont régressé, je crois que c'est de 40%, en fait. Alors que les plaintes ont augmenté. Et donc, le journal Marianne ose publier cette tribune sur l'idéologie féministe terrible d'après MeToo, etc. Donc, quand on voit, en fait, que j'ajouterais, c'est pas les personnes qui ont justement signé la tribune sont notoirement antiféministes. Et justement, on retrouve dans un des signataires soit des violeurs comme Philippe Cobert ou soit Paul Bensoussan. Enfin, il y en a plein. Paul Bensoussan, lui aussi, donc il est très très connu. C'est un spécialiste psy, quoi, de la psychanalyse, un expert soi-disant, qui en fait, son principal travail, c'est de faire le plaidoyer auprès justement de ce SAP dont je vous ai parlé si longuement, pour vous dire que ça n'avait aucun sens et que ça a été condamné par le droit européen pour dire qu'on ne doit pas utiliser ce syndrome d'aliénation parentale. Et bien lui, il continue à faire le contraire, donc à défendre ce syndrome d'aliénation parentale, à former des gens sur ça, des soi-disant experts, etc. Donc du coup, c'est pas étonnant qu'il ait signé ce genre de tribune. Pour revenir sur la déqualification, quand le viol n'est plus un crime, je vous encourage aussi à lire un livre de Sophie Boutboul. Il y a eu le travail d'Azur Schmidt et Boutboul Sophie qui ont étudié pendant des années la correctionnalisation des crimes sexuels sur mineurs. Et donc les viols sur les enfants qui sont très très souvent, trop souvent envoyés en correctionnel. La raison pour laquelle ça se fait, c'est parce que c'est jugé très vite, donc on fait ça vite, ça coûte moins cher, pour des raisons d'argent. Donc c'est une honte, les viols en correctionnel sont jugés comme des larcins. Les victimes n'obtiennent évidemment pas justice, les agresseurs écopent de sursis. La culture du viol reste en marche rapide et continue. Violer un enfant est un crime. On ne peut pas avoir la même peine quand on vend une barrette de shit ou quand on viole un enfant. Donc pour rappeler quelques chiffres, ça date de 2017. Donc 84 000 femmes en France disent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. 84 000 femmes, 14 000 hommes. Et en cour d'assises, on n'obtient que 1500 condamnations. Donc sur toutes ces... 10% des victimes seulement ont le courage de porter plainte et sur ces plaintes, il n'y en a que 10% qui aboutissent à la condamnation des violeurs. Donc finalement, au total, 1% des tentatives ou des viols aboutissent à une condamnation du violeur. 99% des violeurs restent donc impunis. 76% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Les trois quarts des plaintes poursuivies sont déqualifiées en agression sexuelle. La déqualification, ça signifie que la justice ne retiendra qu'un délit d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle. Donc la différence entre un viol et une agression sexuelle, c'est la pénétration. Donc le juge, ça va se faire au tribunal correctionnel quand il y a comme une infraction code de la route. Le délai de prescription ne sera que de 6 ans dans le cas du tribunal correctionnel, avec des indemnisations faibles des victimes, des peines faibles pour l'agresseur. Souvent, la déqualification est présentée comme étant dans leur intérêt de la victime. C'est évidemment pas dans son intérêt, mais on lui présente comme ça pour faire plus vite parce que c'est plus facile et c'est un mensonge. Donc, si bien que finalement, ces agressions sexuelles, ces déqualifications qui sont traitées en tribunal correctionnel, en réalité, une agression sexuelle sur deux qui est jugée comme ça au tribunal correctionnel est en réalité un viol qui a été déqualifié par la justice. La déqualification est un phénomène systémique. Voilà, donc c'est une honte puisque le manque de moyens ou de temps ne devrait en aucun cas justifier cette pratique. Voilà, donc je vous encourage à regarder les travaux de Sophie Boutboul. Aussi, j'en avais parlé longuement de la justice et du viol, des violences sexuelles et que la justice par rapport à ça, dans des précédents podcasts, je me souviens, avec Catherine Lagueresse, j'ai oublié son nom est très long, au milieu, mais qui a écrit un livre, Les pièges du consentement, et qui étudie aussi tout ça. Voilà. Donc il y a aussi un autre problème par rapport à la déqualification. C'est par rapport, donc il y a quand c'est déqualifié, je vous ai dit, le délai de prescription d'une agression sexuelle, ça n'est que 6 ans. Alors que quand c'est jugé aux assises, si ça devait être, comme ça devrait être jugé aux assises, le délai de prescription est beaucoup plus grand, il est de 20 ans. Pour conclure, je dirais que cette correctionnalisation est pourtant contraire à la loi donc de 1980 qui dit que le viol est un crime, que cela invisibilise les violences, que cela ne rend pas justice aux victimes, bien sûr, que finalement ça devient une autre violence, une violence institutionnelle qui met en place l'impunité des violeurs. Les victimes de viol, principalement des filles et des femmes, ont le droit à la justice, la vraie. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Aussi, oui, peut-être, mais je ne retrouve plus, mais qu'en fait, là, c'est ça, la déqualification crée souvent des récidives encore plus, favorisera la récidive, en fait, évidemment, du violeur. Voilà, je crois que je vais refaire une petite pause musicale. Je vais passer Yom. Thank you. émission sera féministe sur Radio Galère. Alors, du coup, je suis en train de changer mon programme que j'avais prévu aujourd'hui parce que j'ai passé beaucoup de temps là tout à l'heure sur la civise, les violences sexuelles, etc. Alors, j'avais prévu donc de vous parler de, mais je le ferai une prochaine fois, d'Alexandra David-Neal, une grande féministe du siècle dernier. Et voilà, ça me permettait de voyager un peu dans le temps et dans l'espace, parce que c'était une grande exploratrice aussi. Mais du coup, je n'aurai pas le temps, puisque c'est un enregistrement que j'avais fait cet été. En plus, on entendait les petits oiseaux, donc c'était super. Et ça dure une demi-heure, donc là, il ne me reste pas une demi-heure. Alors du coup, changement de programme. Alors je vais m'appuyer sur Dora Mouto et je vais vous faire écouter un audio de Dora Mouto qui a témoigné avec les rebelles du genre dont je fais partie, c'est-à-dire que nous dénonçons l'idéologie actuelle à la mode de l'idéologie de l'identité de genre qui est très dangereuse pour les femmes, pour les enfants, pour les droits des femmes, et qui est en fait un allié du patriarcat qui utilise la cause des trans, puisque ce sont en fait des personnes qui instrumentalisent les droits des trans, mais qui est en fait les personnes trans ne sont pas forcément du tout transactivistes, heureusement. Donc voilà, mais les conséquences donc sont assez inquiétantes au niveau de, ça se fait sous les radars, au niveau des lois, au niveau de tout ce qui se passe. Le genre, cette construction sociale mortifère, devient avec l'idéologie de genre une qualité intrinsèque et innée des individus, devient une identité, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que nous, féministes, nous critiquons. Pour nous, le genre, bien non, les stéréotypes de genre, c'est patriarcal. Et donc, nous ne voulons pas de cela, et nous, encore moins que ça devienne une identité, évidemment. Voilà, donc, comme là, je suis en train de peut-être vous embrouiller, c'est pas très clair. C'est des sujets assez compliqués, pourtant importants. Et du coup, je vais vous laisser écouter tout simplement Dora Mouto, qui est assez connue, je pense, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Mal baisé. J'en dis pas plus, je vous la fais écouter.
Je m'appelle Dora Mouto, je suis auteure de deux livres. Je fais aussi du docu et je suis la créatrice du compte Instagram Tajoui qui parle de sexualité et de féminisme. Et je parle aussi pas mal sur ma page Insta Dora Mouto, qui est une page perso.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation permanente, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ça faisait peut-être 6-7 mois que j'avais lancé le compte Instagram Tajoui. Et c'est un compte qui parlait de plaisir féminin. Et donc, évidemment, quand on parle de plaisir féminin, on parle aussi d'anatomie féminine parce que c'est intrinsèquement connecté. Donc, je me suis mis à parler de clitoris, d'utérus, de nos organes, quoi, les organes qu'on a en tant que femelle. Et je me suis fait, assez vite traité de TERF, qui était vraiment un mot que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, certaines personnes se sont mises à me traiter de transphobe et de TERF parce que, par exemple, on me demandait de tout d'un coup dire... on m'expliquait que si je parlais de clitoris, il fallait parler aussi de personnes à pénis et que ce n'était pas OK, par exemple, de parler juste de clitoris, que parler que de clito, c'était transphobe. Quand j'ai commencé à parler de règles et à dire les femmes ont leurs règles, on m'a expliqué que non, on ne pouvait pas dire les femmes ont leurs règles, il faut dire les personnes à vulve ont leurs règles. Et en fait, il y a une personne en particulier, une personne transactiviste, qui a vraiment fait une fixette sur moi et qui a commencé à faire des stories à la une qui s'appelait Dora la Terre 1, Dora la Terre 2, Dora la Terre 3. Et ces stories où cette personne me traitait de transphobe et de TERF, c'est vraiment parti à partir de rien. C'est-à-dire que cette personne, un jour, regardait mes stories sur mon compte Doramuto, en plus, même pas Tajoui, et a commencé à m'expliquer que j'étais pas inclusive, des personnes non-binaires, trans et compagnie. Et en fait, j'ai répondu, écoute, mon compte Tajoui est un compte qui parle d'hétérosexualité. T'es pas content, c'est pareil. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, c'est mon angle, t'es pas content, c'est pareil. Et a commencé donc à dire à sa communauté que le fait que je dise que c'est un compte hétéro voulait dire que j'étais forcément LGBT-phobe, que j'étais transphobe parce que non inclusive, et que je faisais exprès de mégenrer cette personne parce que j'avais dit « t'es pas content, c'est pareil » lorsque cette personne s'identifiait comme une femme et donc a interprété que le fait que je dise « t'es pas content, c'est pareil » était un mégenrage lorsque même je dis à une femme « t'es pas content, c'est pareil », c'est une expression pour dire d'égal. Donc en fait, à partir de là, cette personne a fait une énorme, énorme fixette sur moi et le harcèlement a commencé comme ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi TERF ? J'ai commencé à faire des recherches Google. Et puis, en même temps que j'étais en train de me renseigner sur tout ça et que je commençais un peu à comprendre les enjeux, je subissais de plus en plus de harcèlement et de plus en plus de violence. Et c'était une violence que je trouvais extrêmement misogyne. Donc, pour moi, c'est apparu presque directement comme une forme de violence faite aux femmes. Et donc, j'ai direct ressenti je sais pas comment expliquer le caractère dangereux en fait de cette idéologie, le caractère profondément violent envers les femmes. Enfin, j'ai reçu des insultes qui me disaient suce ma bite de trans, enfin des trucs comme ça. Donc j'étais là, mais comment c'est possible? Enfin, c'est comme un incel ou un masculiniste qui me dirait ça. J'ai vite compris qu'il y avait des liens en fait et qu'il y avait une forme de transmisogynie quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris connaissance. Et c'est ça qui m'a ramenée vers le féminisme radical, parce que jusqu'à là, j'ai été plutôt, je dirais, féministe libérale, parce que je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et en fait, en cherchant des termes comme TERF, etc., je suis tombée sur des blogs de féministes radicales. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire sur le féminisme radical et que je me suis dit, bah, en fait, je suis d'accord avec tout, tout ça fait sens pour moi, c'est d'une logique, voilà, c'est l'évidence. Et même que ça a fait complètement évoluer mes opinions sur d'autres points comme le porno, la prostitution, etc. Donc voilà.
D'accord. Ça nous amène à la question de pourquoi tu penses que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits en particulier, pour les enfants aussi, pour la société ou pour la démocratie même.
Oui, moi je pense que... C'est une menace et c'est une insulte aux 100 dernières années de lutte féministe. Dans le sens où je pense que les femmes se sont battues pour essayer de ne plus avoir le poids des stéréotypes de genre sur le dos. Et aujourd'hui, en fait, on nous y ramène sous le chapeau du soi-disant progressisme. Parce que moi, ce que j'avais compris du féminisme et ce que je crois toujours que c'est quand même une lutte justement pour se débarrasser des stéréotypes de genre et pour assumer en fait ce qui fait de nous des femelles, c'est-à-dire se dire bon bah voilà, j'ai un utérus, j'ai une capacité à avoir un enfant, je peux la prendre ou pas, j'ai un clitoris et il faut se battre justement pour l'accès à au plaisir féminin, faut parler d'endométriose, faut parler de nos règles, enfin faut justement sortir de la honte de nos corps. Mais ce corps ne doit pas dicter la personnalité qu'on a dans la vie, ne doit pas dicter la façon dont je m'habille, ne doit rien dicter en soi, parce que les femmes sont toutes différentes. Et donc, par conséquent, pour moi, en fait, on naît avec un corps, on ne peut pas naître dans le mauvais corps, mais par contre, on peut choisir, enfin, on peut choisir, on ne choisit pas forcément sa personnalité, mais on exprime notre identité comme on veut dans ce monde. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, quand on dit que le mot femme est en lien avec le genre et non pas avec la sexuation, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, ça enferme le mot femme dans un stéréotype. Et donc, du coup, une femme, c'est quoi ? Une femme, c'est le stéréotype de genre. Et ce stéréotype de genre, on essaye pourtant de s'en débarrasser depuis maintenant presque un siècle. Et si en fait, les femmes avaient réfléchi avec cette idée d'identité de genre, par exemple à l'époque des suffragettes, au lieu de dire « moi, je suis une femme et donc je veux un compte en banque et je veux porter un pantalon », qu'est-ce qu'elles auraient fait ? Elles auraient dit « alors moi, je suis un homme ». Voilà. Donc, si cette idéologie-là avait existé au tout début de la lutte féministe, bah, en fait, les femmes n'auraient jamais eu de droit. Donc, pour moi, cette idéologie va à l'encontre de la véritable pensée féministe de la première et de la deuxième vague. Donc, ça, c'est le premier point pour lequel, voilà, enfin, moi, quand on me dit que je suis une femme, je veux qu'on parle de, en fait, tout simplement de ma sexuation. Et je ne veux pas que ça dise quoi que ce soit d'autre sur moi, à part que je suis née femelle. Je ne veux pas que ça décrive le fait que j'ai des cheveux longs, que je m'exprime d'une certaine façon, que j'ai des faux ongles, que Dieu sait quoi. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est très dangereux. Et au-delà de ça, il y a plein d'autres dangers. Par exemple, si aujourd'hui on dit que n'importe qui peut devenir une femme, alors les femmes trans, donc des mâles trans identifiés, peuvent jouer dans le sport, dans les sports féminins. Et donc, moi, je pensais qu'on avait créé ces catégories-là, justement, parce qu'on sait bien que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes muscles, enfin, n'ont pas les mêmes capacités musculaires. Et donc, par conséquent, si on les a divisés en deux, c'est donc que sinon, les hommes auraient toujours gagné. Donc, en fait, ça n'a pas de sens, disons. Et là, tout d'un coup, on se retrouve aux Jeux Olympiques avec un mâle transidentifié qui, en plus, n'a pas transitionné jeune dans sa vie, mais a transitionné très tardivement. Donc, il y a eu des hauts taux de testostérone dans son corps. Et donc, il a développé une capacité musculaire. Et il suffit de le regarder en image pour s'en rendre compte, qui joue avec des femmes. Donc, il prend une place d'une femelle, une femme qui s'est peut-être battue toute sa vie pour avoir une place aux Jeux Olympiques, elle n'aura pas. Et donc, ça, par conséquent, je trouve ça absolument scandaleux que ce soit pas comme ça, que ce soit pas discuté. Il y a aussi le fait qu'on se rend compte qu'en Californie, un certain nombre de mâles transidentifiés vont dans des prisons de femmes. Et parfois, alors c'est du délire, certains sont même des agresseurs sexuels de femmes qui ensuite ont transitionné. Et donc, on peut se retrouver dans une cellule en prison avec un agresseur de femmes qui se dit femme, et donc on a ce type-là dans la cellule. Bon, moi ça, je trouve ça un peu, voilà, je trouve ça extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement bizarre aussi qu'on ne puisse même pas en parler. J'ai aussi remarqué qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prix littéraires, enfin bref, prix divers et variés, notamment un en Australie, un prix littéraire que je regardais, et je regardais comment postuler, et je voyais que pour postuler, il suffit de identify as a woman, voilà. Donc, n'importe qui peut s'identifier comme femme, ce qui ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la Belgique a l'intention de supprimer le sexe sur les cartes d'identité. Et en fait, tout ça mène à une forme de politique de l'effacement du sexe au profit de la notion de genre, genre qui n'est que stéréotype et cliché. Tandis que le sexe, lui, est déjà réel. Je veux dire, c'est la réalité de nos corps, c'est la réalité de la biologie, c'est la réalité en lien avec le concret. Donc voilà, sur énormément de niveaux, je pense que c'est très dangereux, et je pense aussi que c'est dangereux pour beaucoup de jeunes filles, en fait, qui se retrouvent dans cette idéologie et pensent que la solution à leur mal-être est donc la transition pour devenir un homme dans cette société, donc pour devenir le dominant, en fait, celui qui a tous les droits dans cette société. Et je ne peux pas complètement les blâmer, parce que peut-être que si j'avais 14 ans et que j'étais, par exemple, une jeune femme lesbienne avec plutôt l'envie d'une esthétique un peu butch, peut-être que je me dirais que finalement, c'est peut-être plus simple de transitionner, surtout qu'aujourd'hui, dans les communautés adolescentes, queer, on trouve ça hyper cool, qu'on tout d'un coup, on a un système de soutien gigantesque, que comme ça, on devient plus rapidement aussi quelqu'un qui est très visible sur les réseaux sociaux, on montre sa mastectomie, tout le monde vous applaudit. Donc voilà, pour moi, il y a énormément, énormément de dangers pour les femmes là-dessous, et notamment, à partir du moment où on va pouvoir self-identify, comme disent les anglo-saxons, s'identifier soi-même, et que le sexe va disparaître des cartes d'identité, je ne comprends pas comment on va faire des statistiques sur les violences faites aux femmes qui viennent particulièrement des hommes. il y a quelque chose que je comprends pas. Je comprends pas comment on va faire pour faire des études sur les hommes et les femmes en médecine. En fait, il y a plein de choses qui, j'ai l'impression, sont complètement laissées à l'abandon en termes de réflexion. Voilà, parce que la woke culture a décidé que tout questionnement.
Voilà, donc je suis obligée de couper parce que j'arrive au terme de l'émission, c'est 14h. Donc si vous êtes intéressé par ces podcasts, je les passerai de temps en temps. Donc on les trouve sur YouTube, c'est les podcasts Rebelles du genre. Il y a de plus en plus de femmes qui témoignent et de nombreux épisodes. Et je salue les féministes qui ont créé ce podcast. Voilà, donc je reparlerai de ce sujet, ce qui est malheureusement d'actualité, notamment avec les thérapies de transition affirmative, qui ça risque d'être voté au Sénat, etc. Donc voilà, et d'ailleurs Dora Moto allait en parler, mais j'ai été obligée de couper à cause du temps qui est passé. Je vous remercie et je vous dis bien à bientôt.
Nous qui sommes un passé, les femmes.